Les podcasts du Collège de France, philosophie.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous ai parlé vers la fin du cours de la semaine dernière de ce que j'ai appelé l'effet Bentham, selon lequel une assemblée nombreuse tend à produire une quantité sous-optimale d'informations. Avant de passer à l'ordre du jour, l'analyse du vote comme mécanisme de décision collective, je voudrais présenter un exemple concret de l'effet Bentham, exemple tiré du livre d'Adrian Vermeule que j'ai déjà cité. Il s'agit du Congrès américain, dans lequel les députés sont supposés, selon son analyse, avoir deux intérêts principaux, la promotion du bien public et leur propre réélection. Afin de réaliser la première fin, ils doivent s'informer de l'impact probable de tel ou tel projet de loi, et afin de réaliser c'est la seconde, ils doivent solliciter des fonds et faire campagne auprès des électeurs. Leur temps étant évidemment une ressource rare, ils doivent décider comment l'allouer entre ces deux activités. Chaque heure qu'alloue un député à sa réélection ne profite qu'à lui, puisque sa réélection est un bien privé. Par contre, chaque heure qu'il consacre à s'informer profite aussi à tous les autres députés, puisque l'information est un bien public. Il a donc intérêt à laisser aux autres députés la tâche de recueillir et de traiter l'information pour mieux se concentrer sur sa réélection. Or, si tous les députés font ce raisonnement, il y aura évidemment une production sous-optimale d'informations. Afin de parer à ce problème, le Congrès a fait passer en 1995 une loi cadre, The Unfunded Mandates Reform Act of 1995, qui, pour tout projet de loi, exige que les comités du Congrès précisent, quantifient et décrivent les obligations que la loi imposerait aux États, aux municipalités et aux tribus indiennes, et indique celles qui ne seraient pas financées par le gouvernement fédéral. Avant le passage de cette loi cadre, il était largement reconnu que le Congrès avait parfois voté des lois dont les conséquences pour ces instances non fédérales étaient mal connues. Ainsi, selon Vermeule, le passage de la loi cadre fut un effort délibéré pour résoudre le problème du passager libre ou passager clandestin qui se pose quand la collecte d'informations est laissée à la discrétion individuelle des députés. J'entame maintenant la discussion du vote comme mode de décision collective. Et je voudrais d'abord vous rappeler que le cours est organisé autour de l'idée que l'argumentation, le vote et la négociation sont les trois formes élémentaires des décisions collectives. À la suite de discussions que nous avons eues dans le séminaire, et en rappelant aussi quelques cours précédents, je pense être maintenant en meilleure position pour expliquer cette idée d'une forme élémentaire. Je me suis posé la question, dans un des premiers cours, de savoir si la décision par consensus apparent ou la décision par non-opposition pourrait constituer une quatrième forme élémentaire. Je vous rappelle que j'emprunte cette catégorie aux travaux de Philippe Urfalino et qu'elle est également au centre de la thèse qu'achève en ce moment Stéphanie Novak. Il en existe plusieurs variantes, dont par exemple celle-ci. Après une consultation plus ou moins longue et plus ou moins publique, le président du comité ou de l'Assemblée affirme, sans un vote formel, que la majorité requise semble exister pour telle ou telle proposition. Si personne ne s'y oppose, soit en avançant des objections, soit en faisant des contre-propositions, la proposition est formellement adoptée. Il semble clair que cette procédure crée un grand espace discrétionnaire pour la présidence. Comme le montre Stéphanie Novak, la présidence peut jouer sur la crainte des membres d'être mis en minorité, sur leur désir de se rallier à la majorité ni trop tôt ni trop tard, ainsi que sur leur incertitude concernant les préférences des autres membres. Il y a là tout un jeu stratégique dont je vous parlerai si j'ai le temps. Pour l'instant, je voudrais seulement souligner que le jeu se fait à l'ombre d'un vote possible. Si la présidence avait le pouvoir d'imposer une décision, sans que personne ne puisse demander un vote ni faire une objection, nous aurions affaire à une dictature et non pas à une décision collective. On peut à ce propos dresser un contraste entre le Conseil de l'Union européenne et le cabinet anglais. Il semble que dans les débats de ce dernier organisme, on fasse un tour de table à la fin duquel le Premier ministre exprime ce qui est à son avis le consensus ou « the sense of the meeting ». Un ministre qui s'y oppose n'aura d'autre choix que de démissionner. Il ne s'agit pas vraiment, bien sûr, de la dictature du Premier ministre, car son parti peut le forcer à démissionner, mais tant qu'il occupe cette fonction, ses pouvoirs sont beaucoup plus importants que ceux de la présidence du Conseil européen. Dans ce dernier organisme, chaque État membre peut en droit demander un vote et faire échouer la proposition de la présidence si la majorité qualifiée n'est pas atteinte. Le fait que cette éventualité se produise très rarement n'exclut pas qu'elle joue un rôle crucial dans le fait qu'une proposition soit acceptée. Comme le dirent les hauts fonctionnaires interviewés par Stéphanie Novak, tout le monde compte tout le temps, même s'il n'y a pas de vote. Ainsi, on peut dire que puisque la décision par non-opposition se fait à l'ombre du vote, on ne saurait la qualifier de forme élémentaire. Ne sont élémentaires, en effet, que les formes qui permettent d'aboutir à une décision sans faire aucune référence, directe ou indirecte, à une autre forme. Et le vote et la négociation remplissent certainement cette condition. Même si les négociations sont souvent, dans la pratique, accompagnées d'argumentations et suivies d'un vote, elles sont capables d'exister à l'état pur, si l'on peut dire, comme c'est le cas aux puces. De même, le vote ne présuppose pas qu'il y ait une argumentation préalable entre les votants. La décision par non-opposition ne remplit pas cette condition, car, pour la distinguer de la dictature, il faut qu'il y ait la possibilité d'un vote formel ou la possibilité d'exprimer une objection. Ainsi, la décision par non-opposition présuppose toujours la possibilité de recourir au vote ou à l'argumentation et ne serait donc être une forme élémentaire. Après ces remarques introductoires, je vais me pencher sur les modalités du vote, qui sont très nombreuses et très complexes. Je vais d'abord projeter une liste de questions dont j'ai déjà traité, de manière plus ou moins détaillée, et ensuite une liste de celles dont je parlerai aujourd'hui. Et enfin, je vous présenterai la liste des questions qui vont m'occuper dans les deux séances prochaines, le 30 avril et le 7 mai. Et je pense donc que je n'aurai pas le temps d'aborder la question des négociations, mais j'essaierai de le faire dans mon cours de l'année prochaine. Donc voilà quelques-unes des questions déjà soulevées, de manière plus ou moins détaillée, plus ou moins complète. Le vote est-il seulement indicatif ou doit-il aboutir à une décision? Le résultat du vote est-il contraignant pour la minorité? La décision est-elle prise par l'agrégation des résultats de plusieurs votes ou par un seul vote? La question dont j'ai parlé assez longuement, de la double agrégation. Dans la sélection nationale ou municipale, quand observe-t-on le scrutin majoritaire et quand le vote proportionnel? L'expression physique, pour ainsi dire, du vote se fait-elle par 1, cri et hurlement, 2, main levée, 3, assis élevé, 4, division, aller vers la gauche ou vers la droite, 5, par correspondance, 6, par procuration, 7, par voie électronique, 8, par bulletin ou 9, par l'appel nominal? Les votes ont-ils tous le même poids? Dans la décision à la majorité, quelle procédure est adoptée en cas d'égalité des votes? Et enfin, quelle procédure existe pour tenir compte de l'intensité des préférences? C'est une question tellement importante que, si j'ai le temps, je reviendrai là-dessus. Alors, voici donc le plan pour le cours d'aujourd'hui. Le vote doit-il se faire à un moment déterminé d'avance ou le choix de la date ou du jour comporte-t-il un élément discrétionnaire? Par quelle décision collective les systèmes de vote sont-ils établis? Les votants sont-ils des personnes physiques ou des collectifs? Dans le dernier cas, comment le vote de chaque collectif est-il déterminé? Le vote est-il obligatoire ou facultatif? Est-il rémunéré? Ou au contraire, faut-il payer pour avoir le droit de vote? Qui a le droit de vote? Parmi ceux qui ont ce droit, qui l'utilise? Quels sont les rapports entre le vote observé et les intentions de vote publiées par les instituts de sondage. Et enfin, quelle est l'importance, premièrement, des votes non sincères et deuxièmement, des votes sophistiqués. Et pour anticiper, je présente aussi une liste assez longue, à vrai dire, des questions pour plus tard. Je ne sais pas si je parviendrai à les traiter toutes. Le votant exprime-t-il seulement son option préférée ou le classement, selon ses préférences, de toutes les options en présence? Dans ce dernier cas, quelles sont les conditions pour une décision collective cohérente? Question déjà partiellement traitée. La décision est-elle adoptée par 1. Vote infra-majoritaire, 2. À la pluralité, 3. À la majorité simple, 4. À la majorité absolue, ou 5. À une majorité qualifiée, ou 6. À l'unanimité. Dans une assemblée, lorsqu'il y a plusieurs propositions sur la table, dans quel ordre vote-t-on? Si dans une élection nationale, aucun candidat n'obtient la majorité des votes, va-t-on 1. Choisir celui qui a obtenu le plus grand nombre de votes, 2. Choisir par un deuxième vote populaire entre les deux candidats ayant reçu le plus grand nombre de voix, ou enfin laisser le choix entre les deux premiers cas au Parlement, comme on le fait souvent en Amérique du Sud. Un quorum est-il imposé? Quelle est la gamme des majorités qualifiées? Il y a une variation énorme avec des proportions bizarres comme 11/20 par exemple. Le système permet-il d'acheter les votes ou d'acheter les abstentions? Que se passe-t-il si le vote ne produit pas de décision? Le nombre de votes pour et contre est-il publié? Les noms des votants pour et contre sont-ils publiés? Les votants expriment-ils leur voix de manière simultanée ou successive? Dans le dernier cas, comment l'ordre des votants est-il déterminé? Parmi les votes nuls, peut-on distinguer ceux qui résultent de la simple erreur de ceux qui expriment une abstention active? Dans une assemblée, comment les abstentions sont-elles comptées? Quelle est l'importance de l'échange de votes ou le log-rolling? Les votants doivent-ils justifier leur décision collectivement après le vote? Les votants doivent-ils justifier leur vote individuellement avant le vote? Les votants mis en minorité risquent-ils d'être punis? Alors là, il y a une petite coquille. Dans les élections, quelles sont les modalités d'enregistrement des votants, sans doute? La question de votants mis en minorité étant punis s'est posée dans les jurys anglais et dans certains autres contextes. Et enfin, les sondages de sortie de vote, exit poll, sont-ils permis? J'en parlerai d'ailleurs aussi aujourd'hui. Bon. Vous vous rappelez peut-être que j'ai dressé une liste semblable des questions concernant l'encadrement institutionnel de l'augmentation et que j'ai eu le temps d'en traiter seulement une petite partie. De même, il me faudra choisir parmi les questions concernant le vote celles qui semblent les plus importantes. Et pour les illustrer, je choisirai des exemples, soit dans les élections locales ou nationales, soit dans le vote des comités et des assemblées, et y compris, par exemple, les jurys et les conseils des gouverneurs des banques centrales. Et je commence par la question du caractère individuel ou collectif du votant. Dans un grand nombre de contextes nationaux, aussi bien qu'internationaux, chaque votant représente une collectivité. Aux Nations Unies ou au Conseil de l'Union européenne, les votants sont les délégués des États membres. Aux États généraux en France, c'était les trois ordres. Et à l'intérieur de chaque ordre, les votants pouvaient être des individus, mais aussi des collectivités, telles que les gouvernements ou les bailliages. Aux assemblées du clergé français, les votants étaient les provinces. À la Convention fédérale de Philadelphie, c'était les 12 États. Je me pencherai sur deux cas en quelques détails, celui des États généraux et celui de la Convention fédérale. L'examen de ces assemblées me permettra aussi de faire quelques observations sur la première question citée, à savoir la nature des décisions collectives qui aboutissent à l'adoption de tel ou tel système de vote. Comme vous le savez, aux États généraux de 1789, transformés en Assemblée nationale, on votait par tête. Avant cette transformation, la possibilité du vote par ordre restait ouverte, bien que, du moins pour nous, hautement improbable. C'est un fait remarquable, me semble-t-il, que les idées des contemporains sur le mode de vote dans cette hypothèse du vote par ordre et les idées des historiens sont nettement divergentes. Les premiers, les contemporains, affirment tous que les ordres adopteraient leur décision à l'unanimité, tandis que les seconds, les historiens, affirment pour la plupart qu'elles se prendraient à la majorité, de sorte que deux ordres pourraient imposer leur vue au troisième. Et je considère d'abord quelques expressions de la vue des contemporains. Dans l'hypothèse même où les ordres resteront séparés, ils ont tous trois intérêt à s'assurer que les membres qui les composent sont véritablement les représentants de la nation, puisque chacun de ces membres peut déterminer par son influence le veto que chaque ordre a droit de mettre aux résolutions des deux autres. Ensuite, dans le même sens, les États généraux ont été composés depuis 1303 de trois ordres de citoyens, des députés du clergé, de ceux de la noblesse et de ceux des communes. La loi de 1355 sur le fait des délibérations et l'usage de cette loi, depuis 1560, prouve que chaque ordre délibérant à part, le consentement des trois ordres et la sanction du roi ont formé les lois et légitimé les subsides. Et enfin, de l'autre côté, du tiers état, si l'on peut croire la division des chambres utile pour conserver une forme de constitution établie, il est évident qu'elle ne peut être que très nuisible lorsqu'il s'agit de réformer, puisque si l'on considère la prétention du veto, 151 voix dans une seule suffiraient pour empêcher une amélioration votée par 1049 représentants. Ces textes ont de quoi surprendre, puisqu'ils présupposent implicitement la possibilité d'un désaccord entre les deux ordres privilégiés. Si ces deux ordres étaient d'accord, ils pourraient bloquer toute réforme par un vote à la majorité, deux ordres contre un. Le veto de chaque ordre serait non seulement superflu, mais dangereux, en ce qu'il pourrait aussi fournir une arme aux tiers états contre les ordres privilégiés au cas où ceux-ci chercheraient à renforcer leurs privilèges. La seule solution proposée à cette petite énigme que j'ai pu trouver est celle de Georges Lefebvre, selon qui l'origine de la Révolution fut le désir de l'aristocratie de reprendre la direction de l'État. Et à cette fin, écrit-il, les États généraux devaient rester divisés en trois ordres, chacun ayant une voix, et la majorité étant ainsi assurée au clergé et à la noblesse. Certains, parmi la noblesse, prétendaient même que chaque ordre eut le droit de veto, en prévision d'une coalition du clergé et du tiers contre la noblesse. De ce veto, le tiers, tel qu'ils entendaient le composer, n'aurait pas fait usage. On voulait faire lire les députés par les États provinciaux, dans lesquels le tiers n'était représenté que par les commissaires de municipalités privilégiées, dont les membres avaient acheté leurs charges et souvent étaient des anoblis ou aspiraient à le devenir. La Grande Peur de 1789 est un livre extrêmement important, autant par la pénétration psychologique dont fait preuve l'auteur que par ses analyses sociologiques. Dans mon intervention au colloque sur le rôle des rumeurs et des théories du complot dans les guerres civiles que j'organise avec Henri Laurence en juin prochain, je proposerai une lecture à certains égards nouvelle de cette œuvre séminale. Au désespoir de générations de chercheurs, il ne comporte pourtant aucune bibliographie. Puisque Lefebvre avait une connaissance peut-être inégalée de la Révolution, il n'y a aucune raison de douter de l'exactitude de son analyse concernant le projet de cette fraction de la noblesse. Or, à ma connaissance, qui est bien sûr limitée, ce projet très intrigant, et c'est bien le mot, n'est mentionné nulle part ailleurs dans la littérature sur la Révolution. L'absence de source est donc particulièrement regrettable. L'idée d'une alliance du clergé et du tiers-état contre la noblesse laisse rêveur, d'autant plus qu'elle se conjugue chez Lefebvre avec l'idée de faire représenter le tiers-état par des anoblis ou des personnes aspirant à le devenir. Ici, je voudrais seulement souligner deux précédents historiques de cette crainte de l'un des ordres d'être mis en minorité par les deux autres. Je m'appuierai ici sur l'ouvrage fondamental de Georges Picot, Histoire des États généraux. Bien qu'important, il comporte, sur le point précis qui me concerne ici, une nette ambiguïté. Nous avons vu tout à l'heure le comte d'Entraigues citer les États généraux de 1355 et de 1560 pour appuyer sa proposition que toute loi devait avoir le consentement des trois ordres. Bien qu'il ait raison en ce qui concerne 1355, la référence aux États d'Orléans en 1560 n'est pas tout à fait pertinente. Les États de 1560 furent surtout importants en ce que, pour la première fois, les trois ordres siégeaient séparément. Or, la demande du consentement unanime ou du droit de veto de chaque ordre ne fut soulevée que lors des États de Blois en 1576. Commençons par les États de 1355. Dans la partie principale de son texte, Picot s'exprime ainsi. Le tiers état sentait qu'il dominait par le nombre les deux premiers ordres. Aussi voulait-il échapper à leur pouvoir. Il ne rêvait pas encore de conserver à jamais la prépondérance si nouvelle qu'il avait acquise, mais il tenait à garder au moins de ce triomphe d'un jour une perpétuelle indépendance. Quatre fois dans la grande ordonnance, les députés font promettre au roi que dans les prochaines assemblées, les résolutions seront prises par l'unanimité des ordres sans que deux d'entre eux puissent lier le tiers. Comme le note aussi Picot, le tiers ne signifiait pas à l'époque le tiers état, mais seulement celui des trois ordres qui avait contre lui l'opinion des deux autres. Il me semble néanmoins que l'on peut avancer les deux propositions suivantes. Premièrement, le tiers état n'avait pas d'intérêt particulier à ce que l'un des deux ordres ne soit pas lié par une majorité. Il voulait surtout ne pas être lié lui-même et n'envisageait sans doute pas la possibilité d'entrer dans une alliance avec l'un des deux ordres privilégiés contre l'autre. Deuxièmement, il donnait à sa demande une forme générale plutôt que particulière, comme lorsque plus récemment, l'Assemblée nationale a pris soin de donner à la loi contre le port du voile une forme générale qui interdit également le port de la croix catholique et de la kippa. Il s'agit là de routines hypocrites fréquemment observées. Pour la deuxième édition du livre, celle que je cite ici, Picot ajouta une note en bas de page et un appendice qui suggère une motivation différente. L'appendice, tiré d'une lettre qu'il avait écrite à Guizot, comporte notamment le passage suivant. À première vue, c'est-à-dire la vue qu'il avait exprimée dans la première édition, il était permis de supposer que les députés des villes avaient entendu, en 1355, se garantir des dangers d'une action commune du clergé et de la noblesse. Un examen plus attentif de texte m'a fait revenir à une opinion plus juste. Il est certain que les trois ordres s'étaient mis d'accord pour se protéger mutuellement contre une alliance de deux d'entre eux. D'ailleurs, les États de 1576 virent le clergé reprendre à son profit, contre les deux ordres laïcs, la proposition votée en 1355. Il est hors de doute que cette maxime servait à empêcher la majorité d'opprimer la minorité, quel que fût son nom. Bien que je ne sois pas historien, la phrase que j'ai soulignée me semble hautement improbable. J'ai du mal à croire que le clergé et la noblesse se soient interdits d'opprimer le tiers état comme la contrepartie de ne pas être opprimés par lui ou par une coalition dont il ferait partie. Il me semble plus plausible que chaque fois qu'un ordre se sentait menacé, il fit appel à la maxime du veto de chaque ordre. Ce fut le cas du tiers état en 1355, du clergé en 1576 et, selon Lefebvre, d'une fraction de la noblesse en 1789. La forme générale de la maxime, choisie d'abord sans doute pour des raisons tactiques, se serait donc retournée contre son auteur. Pourquoi Lefebvre a-t-il envisagé une alliance du clergé et du tiers-État contre la noblesse. De manière tout à fait spéculative, je me demande si, dans sa vision, la noblesse a entrevu ce qu'allait en effet se produire en mai-juin 1789, à savoir l'alliance entre le bas clergé et le tiers-État. Vous vous rappelez peut-être que la semaine dernière, j'ai cité la lettre de convocation aux États généraux dans laquelle Louis XVI exprima le désir de voir les curés représenter le peuple des campagnes. Ce désir, exaucé, fut sa ruine, puisque le bas clergé et le tiers-État formèrent en effet une alliance contre laquelle la noblesse fut impuissante. Je voudrais maintenant porter à votre attention le mode de vote à l'intérieur de chaque ordre. En 1789, il n'y avait pas de doute, si l'on avait retenu le vote par ordre, chacun d'entre eux allait voter par tête et à la majorité, à l'intérieur de chaque ordre. Dans les États de 1576 et de 1614, on prenait le vote soit par gouvernement, soit par bailliage. Or, ces deux modalités furent loin d'être équivalentes. Aux États de 1614, il y avait 12 gouvernements, avec un S, dans chaque ordre, chacun avec son président. Mais le problème du vote ne fut jamais bien résolu. Devait-on voter par gouvernement, chacun ayant une voix, bailliage de même, ou par tête? Selon le mode de scrutin, les résultats pouvaient, au pluriel, être très différents. Le gouvernement de l'île de France comptait 14 bailliages, celui de Bourgogne 12, celui de Normandie 7, celui de Picardie 5, celui de Guyenne 16, celui d'Orléans 19. Les résultats pouvaient être opposés si les représentants votaient par bailliage et sénéchaussé au lieu de voter par gouvernement. Et il y a aussi des passages très intéressants dans le journal que tint Jean Bodin parmi les États de 1576, où il s'oppose également au caractère arbitraire du vote par gouvernement. Notons d'abord que, contrairement à ce que suggère Mounier, par tête, cette possibilité était exclue, comme le nombre de délégués envoyés par les bailliages fut toujours laissé à leur discrétion. En ce qui concerne le choix entre les deux autres modes de vote, la situation était essentiellement indéterminée, les modes de convocation, de composition et de tenue des États généraux n'avaient jamais été bien nettement déterminés. Il convient d'ailleurs de préciser que même si le gouvernement comportait des nombres de bailliages très inégaux, la taille de ceux-ci variait aussi beaucoup. Ainsi, les avocats du vote par gouvernement et ceux qui proposèrent le vote par bailliage pourraient s'accuser réciproquement de découpage arbitraire, un peu à la manière du redistricting américain contemporain. À la Convention fédérale, on avait également affaire à un système emboîté. Les délégués votèrent à la majorité à l'intérieur de leur délégation, puis la Convention vota à la majorité en donnant une voix à chaque délégation. Tout au début de la Convention, certains délégués des grands États eurent l'intention de s'opposer à ce système qui favorisa évidemment les petits États. Ceci, c'est une note de James Madison. Avant l'arrivée de la majorité des États, la règle avec laquelle ils devraient voter à la Convention avait fait l'objet de conversations entre les membres présents, gouverneur Morris, soutenu par Robert Morris et d'autres représentants de la Pennsylvanie, insista sur le fait que les grands États devraient s'unir pour fermement refuser un vote égal aux petits États comme déraisonnable et comme donnant la possibilité aux petits États de rejeter tout bon système de gouvernement qui doit par nature être fondé sur une violation de cette égalité. Les représentants de Virginie, concevant qu'une telle tentative pourrait engendrer des altercations fatales entre les grands et les petits États, et qu'il serait plus facile de persuader ceux-ci, dans le cours des délibérations, d'abandonner leur égalité de voix pour permettre un gouvernement efficace, plutôt qu'ils se dépossèdent eux-mêmes de ce droit et de cette façon se jettent eux-mêmes à la merci des grands États, désapprouvèrent et étouffèrent le projet. Donc, on vota, on accorda une voix à chaque délégation. La mention de l'abandon de l'égalité ne se réfère pas au système de vote à la Convention, mais à l'égalité d'influence des États dans la Constitution. Le raisonnement est un peu obscur, mais il semble que les délégués de Virginia, dont sans doute James Madison, aient argumenté ainsi. Premièrement, c'était évident, les petits États désirent obtenir une influence égale dans la Constitution. Ensuite, si nous adoptons un vote pondéré à la Convention, la taille de la population servant de poids, les petits États sauront d'avance que ce désir sera frustré. Il est fort probable qu'ils se retireront de la Convention avant même qu'ils n'aient commencé ces travaux. Mais si, par contre, nous adoptons l'égalité du vote, les petits États vont rester à la Convention, de sorte que nous pourrons essayer de les persuader que l'inégalité d'influence des États est le prix qu'il faut payer pour créer un gouvernement efficace. Comme nous le savons, cet espoir fut vain. La menace de se retirer de la Convention fut tout aussi efficace quand fut débattue la question de la représentation des États au Sénat qu'elle l'aurait été si les grands États avaient insisté sur un vote pondéré dès le début. Il convient, je pense, de mentionner une différence entre le cas américain et le cas français. Les Américains avaient des sentiments d'attachement et de loyauté très forts vis-à-vis de leurs États. On peut citer par exemple Tocqueville dans ce sens. Les législateurs américains donnèrent à l'Union de l'argent et des soldats, mais les États gardèrent l'amour et les préjugés des peuples. Ou encore, le patriotisme, qui le plus souvent n'est qu'une extension de l'égoïsme individuel, est donc resté dans l'État et n'a, pour ainsi dire, passé à l'Union. En revanche, des diverses circonscriptions administratives, judiciaires, ecclésiastiques, etc., entre lesquelles l'ancienne France était partagée, les gouvernements, que l'on peut considérer comme étant des divisions militaires ou politiques, ou plutôt comme l'ayant été, étaient celles qui avaient le moins de réalité et qui étaient la plus étrangère à la vie ordinaire du pays. Ainsi, la proposition de choisir les gouvernements comme unité de vote ne pouvait pas ne pas être perçue comme purement tactique, à la différence de l'appel aux États américains. Et c'est sans doute pour cette raison, du moins en partie, que les États de Blois en 1614 se sont soldés par un échec, tandis que la Convention fédérale a abouti à un accord négocié. Sans doute l'appel des petits États au principe de l'égalité des États fut-elle tactique, mais elle ne fut pas que tactique, et les grands États le savaient. Dans le cas français, l'indétermination du choix de l'unité de vote à l'intérieur de chaque ordre ne fut jamais résolue. De manière semblable, il me semble qu'en 1789, le choix entre l'unanimité et la majorité dans le vote par ordre, à supposer que celui-ci eût été adopté, fut indéterminé. Comme dans les États de 1614, la tendance de chaque parti à vouloir imposer le mode de vote qui donnera la décision qu'elle préfère aurait vicié le processus dès le début. Je passe maintenant à la question du vote individuel. Car lorsque le vote est individuel plutôt que collectif, il convient également de se demander qui va voter. Dans un cours précédent, j'ai fait l'analyse de cette question du point de vue surtout procédural. Qui détermine et comment qui pourra voter ? Et j'ai notamment souligné quelques exemples curieux dans lesquels on accordait aux citoyens qui n'avaient pas encore le droit de voter aux élections ordinaires le droit de voter dans le référendum qui allait décider s'ils devaient l'obtenir. Mais aujourd'hui, je soulèverai surtout la question de fond. Question qui se scinde en deux. Premièrement, qui a le droit de vote ? Deuxièmement, parmi ceux qui ont ce droit, qui l'utilise ? Et les deux questions sont liées, pour la raison suivante. Le suffrage formel est évidemment régi par la loi. La tendance à voter ou à s'abstenir peut s'expliquer par un grand nombre de facteurs, dont certains sont institutionnels, donc également établis par la loi. Il est donc possible que ces institutions aient été établies dans le but d'encourager ou de décourager le vote chez certaines catégories d'individus. En reprenant certaines idées de mon cours de 2006-2007 et en le creusant, je vais offrir un certain nombre d'exemples de ces procédés indirects. Il est d'abord nécessaire de préciser que le vote n'est pas simplement une question du droit de vote et du libre usage de ce droit, car dans de nombreux pays, je pense maintenant 32 au total, le vote est obligatoire plutôt que facultatif. Les non-votants sont sujets à des sanctions, parfois importantes, qui dans certains pays produisent un taux de participation bien plus élevé que celui qu'on aurait connu sous un régime facultatif. À la suite de l'abolition du vote obligatoire au Venezuela, en 1993, par exemple, le taux a chuté de 30 points. Au Brésil, on a calculé que l'abolition, si elle se produisait aujourd'hui, aurait un effet du même ordre de grandeur. Le cas du Brésil est en effet particulièrement intéressant, car ce pays est parmi les très rares, avec l'Autriche et le Nicaragua, à avoir baissé l'âge de vote à 16 ans. Et en le faisant, on a exempté les citoyens entre 16 et 18 ans, comme d'ailleurs les membres analphabètes de la population, de l'obligation de vote. On ne connaît pas, ou plutôt je n'ai pas pu découvrir, la raison de ces exemptions, mais on peut spéculer que c'est la même que la raison pour laquelle ces individus dans d'autres pays sont formellement exclus du vote. Quand ils n'ont pas l'obligation de voter, leur taux de participation est faible. On ne désire pas qu'ils votent, mais on ne veut pas avoir l'air de les exclure. Et je vous citerai à ce propos un texte intéressant signalé par Jaurès, dans lequel l'éditeur des Révolutions de Paris, Lustalo, explique pourquoi il est opposé aux assemblées intermédiaires dans le système électoral et pourquoi, à son avis, il croit qu'il est possible que la nation, assemblée par individu, députe directement. Et, ajoute-t-il, si la chose est possible, elle doit être exécutée. Pour répondre aux objections qu'il anticipe à cette proposition, il fait un raisonnement qui est assez étonnant par son hypocrisie ouverte. Nul citoyen ne doit être privé de la faculté de voter par le droit. Il importe que par les faits, tous les prolétaires, tous les citoyens susceptibles d'être très facilement corrompus en soient privés. C'est du moins ce qui avait lieu à Rome dans les comices par centurie. C'est aussi ce que l'on peut facilement obtenir par un choix habile des lieux où les citoyens sont obligés de se rendre pour tenir les assemblées qui doivent députer directement. Donc, s'il fallait s'abstenir un jour ou deux pour aller voter, les plus pauvres ne le feraient pas. Et je voudrais également citer la curieuse analyse que propose Aristote dans la politique de ce qu'il appelle les artifices spécieux dont on prétend leurrer le peuple en politique. Pour l'Assemblée générale, on donne à tous les citoyens le droit d'y assister, mais on a soin d'imposer aux riches une amende s'ils ne s'y rendent pas, et cette amende ne s'applique qu'à eux seuls, ou du moins elle est beaucoup plus forte contre eux que contre les pauvres. Quelquefois, il suffit d'avoir été inscrit sur le registre civique pour avoir entré à l'Assemblée générale et au tribunal, mais une fois inscrit, si l'on manque à ces deux devoirs, on est passible d'une amende effrayante. Il a pour but de faire qu'on s'abstienne de s'inscrire, et comme l'on n'est pas inscrit, l'on ne fait pas alors partie, ni du tribunal ni de l'Assemblée. Telles sont les ruses mises en usage par les lois dans les constitutions oligarchiques. Dans la démocratie, le système de ruses est tout à fait opposé. Un indemnité aux pauvres qui assiste au tribunal et à l'Assemblée générale, impunité pour les riches qui n'y vont pas. Il ajoute, pour que la combinaison politique soit équitable, il faut évidemment emprunter quelque chose de système contraire, salaire pour les pauvres et amende pour les riches. Mais c'est la description de l'oligarchie qui démontre le désir des dirigeants d'avoir l'apparence de l'égalité et la réalité de l'inégalité. Même si Aristote cite la pratique athénienne de piller les citoyens pour voter, il n'envisagea pas la possibilité de leur demander de piller pour avoir le droit de voter. Ce fut le cas des États sudistes aux États-Unis, où jusqu'en 1964, les citoyens devaient payer un impôt particulier, le poll tax, capitation, afin de pouvoir voter. Les faits et le mobile furent de priver les pauvres, les blancs aussi bien que les noirs, du droit effectif de voter. Dans le même sens, on peut citer un politologue américain, Brian Kaplan, qui propose d'inverser la tendance observable aux États-Unis depuis 20 ans à rendre plus facile l'inscription sur les listes électorales. Selon Kaplan, une grande partie des citoyens sont non seulement ignorants en politique, mais biaisés en faveur de positions populistes ou autres, dépourvues de tout fondement. Lorsqu'on leur demande, par exemple, d'indiquer les deux composantes les plus importantes du budget fédéral, 41% des répondants nomment l'aide aux pays étrangers comme l'une des deux. Mais en réalité, cette rubrique ne constitue que 1,2% du budget. Pour Kaplan, c'est donc une bonne chose que les citoyens les moins éduqués, qui répondent plus souvent dans ce sens, tendent à avoir un taux de participation plus faible et une mauvaise chose de faciliter leur vote. En ce qui concerne le droit formel de voter, je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit dans des conférences antérieures ainsi que dans mon cours d'il y a 2 ans, sauf pour une petite remarque supplémentaire sur l'âge légal de vote. La tendance historique est à la baisse de l'âge minimum, avec pourtant un plancher, si l'on peut dire, de 18 ans, sauf pour le Brésil, l'Autriche et le Nicaragua. Il existe toute une gamme d'autres activités ou de responsabilités pour lesquelles la loi précise aussi un âge minimal: conduire, ingérer des boissons alcooliques, acheter des cigarettes, porter des armes, se marier, être sujet à des poursuites pénales et faire le service militaire. Autant qu'on puisse en juger, la raison en est surtout la capacité réduite à se contrôler soi-même et, dans le cas du service militaire, une moindre capacité physique. Dans le cas de l'âge de vote, ces aspects de la décision semblent marginaux. Il faut croire que c'est plutôt une question de compétence dans le sens que je vais expliquer. En comparant la semaine dernière l'effet Bentham et l'effet Condorcet, j'ai distingué 2 dimensions de la compétence. Il s'agit premièrement de la capacité à tirer la bonne conclusion des informations disponibles et deuxièmement de la quantité d'informations dont on dispose. À la réflexion et inspiré par cette question du droit de vote, il convient d'ajouter une 3e composante, l'autonomie, c'est-à-dire la capacité à se former ses opinions uniquement à partir des informations dont on dispose, et notamment en ne se laissant pas influencer par les opinions du milieu familial ou social. Comme l'a montré Pierre Rossin-Ballon dans Le Cercle du citoyen, la raison pour laquelle on refusait le droit de vote aux femmes et aux domestiques à la Révolution fut surtout qu'ils s'étaient jugés non autonomes en ce sens. Et c'est également la raison la plus fréquemment citée pour justifier un âge minimal de l'électeur. Même si les 2 autres composantes de la compétence tendent également à être moins développées chez les jeunes, la théorie de la démocratie semble attacher moins d'importance à ces dimensions. Et à ce propos, et en partie pour vous amuser, je vais citer, avec mes commentaires entre crochets, les 10 arguments offerts par l'Association américaine pour les droits des jeunes en faveur d'un abaissement de l'âge minimum à 16 ans. Voilà les 10 arguments. Les jeunes souffrent d'être soumis à un double régime en ayant les responsabilités des adultes sans leurs droits. Ce fut vrai quand on pouvait aller en prison à 18 ans ou devait faire son service militaire à cet âge, tout en devant avoir 21 ans pour voter. C'était une anomalie. Deuxième, puisque les jeunes paient l'impôt et sont sujets aux lois, ils doivent avoir le droit de voter. Trois, si les jeunes ont le droit de vote, les politiciens représenteront leurs intérêts. 4. La jeunesse possède une perspective unique. On ne reverra pas cette expérience. Mais cet argument suggère plutôt l'utilité d'élus jeunes que celle d'électeurs jeunes. Sujet dont j'ai déjà parlé. 5. Il vaut mieux introduire le vote à 16 ans qu'à 18 ans, car les jeunes de 16 ans sont plus stables. Baisser l'âge de vote accroîtra la participation aux élections, mais pas forcément le taux de participation. Si les adultes stupides ont le droit de vote, pourquoi ne pas laisser voter les jeunes intelligents? Et parmi les jeunes, seulement les intelligents? 8. La jeunesse votera bien. 9. Il n'y a pas de vote erroné. Serait-ce parce qu'il n'y a pas de vote correct? Et enfin, abaisser l'âge de vote profitera intrinsèquement à la vie des jeunes. Cette question de l'autonomie du vote ne concerne pas que les jeunes. Il existe plusieurs dispositifs qui s'expliquent par le désir de protéger l'autonomie des électeurs ou des membres des assemblées, quel que soit leur âge. Considérons par exemple les élections. Dans la sociologie électorale, on distingue deux effets que peuvent avoir le vote ou l'intention de vote d'une partie de l'électorat sur le vote effectif d'une autre partie. Et par l'intention de vote, j'entends ici les intentions publiées dans les sondages. D'une part, il y a l'effet du dernier gagnant, ou bandwagon effect, selon lequel les électeurs qui n'ont pas encore formé une intention de vote s'alignent sur le favori ou la favorite. D'autre part, il y a l'effet du donné perdant, ou underdog effect, selon lequel c'est l'inverse qui se produit. Dans le premier cas, il s'agit d'une forme de conformisme, dans le second, d'anticonformisme, tous les deux incompatibles avec l'autonomie. Notons que l'effet du donné perdant risque de s'annuler lui-même. Si un nombre suffisamment grand de votants y sont sujets. De plus, l'effet du donné gagnant et l'effet du donné perdant peuvent s'annuler l'un l'autre, comme l'a démontré Herbert Simon dans un article classique, où il montre un théorème qui s'ensuit d'une propriété élémentaire des fonctions continues énoncée dans le théorème de la valeur moyenne. Ce théorème de Simon permet aux instituts de sondage de publier des prédictions de vote qui tiennent compte de leur propre impact sur les électeurs, puisque les deux effets s'annulent parfaitement. Il est avéré que les sondages exercent une influence, dans un sens ou dans un autre, sur les électeurs qui ne se sont pas encore décidés. Il faut sans doute chercher dans ce fait l'explication de l'interdiction dans beaucoup de pays de publier des sondages les derniers jours avant les élections. Dans un document qui porte sur 66 pays, 36 de ceux-ci n'imposent aucune restriction à la publication des sondages. Dans les 30 autres, la période de l'embargo varie d'1 à 30 jours, la moyenne étant de 6 jours. Dans cette période, les électeurs sont censés écouter les candidats et discuter entre eux sans qu'on leur rappelle constamment la tendance globale susceptible de déclencher leur conformisme ou leur anticonformisme éventuel. Bon, j'avais l'intention de reprendre ici une partie de mon cours de l'année passée sur ce que j'appelais alors l'effet Chirac, mais afin de pouvoir passer à des choses, des idées plus inédites, je vais sauter ce passage pour passer à la question des votes sophistiqués et votes insincères. Je pense qu'il faut distinguer ces deux catégories, puisqu'à la différence d'un vote insincère, un vote sophistiqué n'est pas induit par la publicité de la procédure. Pour un exemple paradigmatique du vote insincère, on peut prendre le récit que fait Thucydide de la décision de lancer l'expédition sicilienne en 415 avant notre ère. Il explique d'abord comment Nicias, peu enclin à ce projet, présentant les énormes sacrifices qu'il entraînerait pour la cité, et continue ainsi. Tel fut le discours de Nicias. Il espérait, par ses multiples exigences, faire revenir les Athéniens sur leur décision, ou bien s'assurer toutes les chances de succès au cas où ils seraient contraints de partir. Mais les Athéniens, loin de renoncer à l'expédition en raison de l'énormité des armements, s'y sentirent tout au contraire poussés par une nouvelle ardeur. Ces conseils furent trouvés excellents et l'on s'imagina n'avoir rien à craindre. Tous, sans exception, se sentirent pris d'un furieux désir de partir. Les plus vieux se disaient qu'ils allaient soumettre le pays où l'on se rendait et qu'un pareil déploiement de troupes ne risquait aucun échec. Les hommes en âge de porter les armes désiraient voir et connaître une terre éloignée et avaient bon espoir d'en revenir. La foule et les soldats comptaient en rapporter une solde immédiate et tout en augmentant la puissance de l'État, y faire une conquête qui leur assurait une solde perpétuelle. Si vive était l'ardeur générale, que ceux qui étaient d'un avis différent se gardaient bien de manifester leurs sentiments par crainte de paraître mal intentionnés à l'égard de la cité. techniquement, c'est une petite contradiction, puisque si tout s'était pris d'un sentiment, pris d'un furieux désir de partir, cette minorité n'existait pas. Bon. Lorsque le vote est public, comme ce fut le cas à Athènes, il s'exerce souvent une pression sociale très forte sur l'individu pour voter dans le sens de la majorité. Quand le vote non seulement est public, mais se fait par l'appel nominal, cette pression s'en trouve renforcée. À la Constituante, il arriva souvent qu'une majorité évidente lors du vote par assis élevé se transforma en minorité lorsqu'on demanda l'appel nominal. Voilà par exemple le récit que fit l'Alléton Landal à ses commettants du vote sur une proposition faite par Mounier lors des débats sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en juillet 1789. L'amendement proposé par Mounier fut discuté avec plusieurs autres et vivement combattu. Mis aux opinions, il obtint une grande majorité. Tout à coup, une partie de la minorité fit retenir la salle de ses clameurs, soutint que l'amendement n'avait pas passé, alla jusqu'à dire qu'il n'avait pas été discuté et demanda impérativement l'appel nominal. Ce n'était pas la première fois qu'on avait forcé l'Assemblée à revenir sur une question décidée. Et la même opinion qui avait eu sur la majorité, qui avait eu la majorité par assis élevé, la perdait à l'appel nominal. Tel homme qui n'avait pas craint de se lever environné de tous ses voisins n'osait plus articuler son avis quand on l'appelait par son nom, quand il voyait faire des listes qui, à sortir de la séance, allaient courir dans la capitale et dans les provinces. J'offre enfin un exemple plus récent de l'impact de la présence dans les galeries de partis intéressés. Il s'agit du passage du Civil Rights Act en 1964 par le Congrès américain. Si vous consultez l'article sur ce passage dans Wikipédia, vous lisez notamment que l'acte était conçu au départ pour protéger les droits des Afro-Américains, puis fut amendé pour élargir la protection à tous, hommes et femmes. On verra que la préposition « pour » est inappropriée. Donc, telle est sans doute la version, la mémoire officielle du passage du Civil Rights Act, mais la réalité est toute différente, comme l'explique le récit suivant. C'est assez long, mais je pense que c'est d'un intérêt, c'est passionnément intéressant. Lorsque le Civil Rights Act de 1964 fut débattu à la Chambre, un représentant conservateur, Robert Smith, introduisit ce qu'il pensait être un amendement assassin, a killer amendment. Il proposa que le projet de loi interdise les discriminations fondées sur le sexe, la race et les origines nationales, tandis que le premier projet ne comportait que la race. La présidence de la Chambre, qui partageait la conviction de Smith que l'amendement pourrait tuer le projet de loi, tenta de persuader les démocrates libéraux de voter contre la proposition. Selon certains comptes rendus, beaucoup de ses membres auraient personnellement voulu le faire si le vote avait eu lieu en privé. Mais les galeries étaient remplies de groupes d'intérêt de femmes qui étaient venues observer le comportement des votants non enregistrés, et du moins, dans ce cas, les membres libéraux ne voulurent pas suivre la présidence et rejeter l'amendement de Smith. Il s'avéra que l'amendement Smith ne conduisit pas à un rejet du projet de loi, mais au contraire à l'inclusion du genre parmi les groupes ayant un statut protégé. Donc c'était un sous-produit non voulu. On soupçonne que les membres libéraux du Congrès étaient favorables à l'interdiction de la discrimination fondée sur le genre depuis le début, mais qu'ils auraient préféré suivre la présidence démocrate si un tel travail avait pu être accompli dans l'épaisseur de la nuit. Ce qui signifie que lors d'un vote secret, beaucoup auraient eu une préférence pour voter contre l'amendement Smith. Cependant, le fait que le vote devait être public et la présence de représentants de groupes d'intérêt motivés poussèrent probablement ses membres à voter pour l'amendement. Donc, la mécanique semble avoir été la suivante. Les membres de la Chambre passèrent un à un devant un scrutateur à qui ils présentèrent soit une carte verte, soit une carte rouge, pour indiquer leur accord ou leur désaccord avec la proposition. Et à la fin, le scrutateur compta les votes et annonça le résultat. la procédure en elle-même ne laissa aucune trace qui eût permis d'identifier ceux qui avaient voté dans un sens ou dans l'autre. Or, comme dans ce cas, il y avait des personnes dans les galeries, elles pouvaient constater qui avait présenté la carte verte et qui la carte rouge. Donc, comme vous l'aurez constaté, l'affirmation de Wikipédia que le projet fut amendé pour élargir la protection à tous, hommes et femmes, est parfaitement inexacte. L'amendement avait un but purement tactique, à savoir d'induire ceux qui autrement auraient voté pour le projet à s'y opposer, de sorte que ni les Noirs ni les femmes n'auraient obtenu une protection élargie. Ces amendements tactiques constituent une arme fréquemment utilisée par les législateurs et souvent très efficace. Je vous offre un exemple d'un amendement tactique réussi. Un vote du Congrès américain sur l'aide aux écoles privées est passé à l'histoire des scrutins. Les républicains, qui souhaitaient le rejet du texte, votèrent avec les démocrates du Nord un amendement qui supprimait l'aide fédérale aux écoles ségrégationnistes. Ça se passait en 1956, je pense. Ainsi amendé, le texte paraissait inacceptable aux démocrates du Sud, qui, au vote final, le rejetèrent avec les républicains. C'est là un exemple où, dans une assemblée délibérante, un groupe minoritaire, votant un amendement contre son intime conviction, réussit à obtenir la décision qu'il souhaite au vote final. Mais dans le vote sur le Civil Rights Act, la publicité du vote a pourtant fait échouer cette méthode. Dans les trois épisodes que j'ai cités, le vote sur l'expédition sicilienne, le vote sur la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens et le vote sur le Civil Rights Act, les pressions sociales sur le voteur se sont fait sentir de manière assez différente. Dans l'Assemblée athénienne, il fut exposé au regard des autres votants. À la constituante, il fut exposé au regard de l'assistance et de manière plus importante aux foules parisiennes et à ses propres combattants. Bon, il semble que j'ai perdu une page là. Tandis que, donc, à la constituante, le votant fut exposé au regard de l'assistante et surtout, son vote fut porté à la connaissance des foules parisiennes et de ses combattants. Et au Congrès américain, le votant fut exposé au regard des membres d'un groupe d'intérêt qui pouvait potentiellement empêcher sa réélection. Je pense que je vais m'arrêter là, d'autant plus que j'ai perdu la dernière page. Dans la dernière page, j'allais vous parler du vote sophistiqué, je commencerai la semaine, le 30 avril, sur ce sujet. Donc, je vous remercie de votre attention et bonnes vacances.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.